Britannicus, acte 5e. Scène 1. Britannicus, Junie. Britannicus.
Oui, madame. Néron, qu'il aurait pu penser, dans son appartement m'attend pour m'embrasser. Il y a fait de sa cour inviter la jeunesse. Il veut que d'un festin, la pompe et l'allégresse confirment à leurs yeux la foi de nos serments et réchauffe l'ardeur de nos embrassements. Il éteint cet amour, source de tant de haine. Il vous fait de mon sort arbitre souveraine. Pour moi, quoique banni du rang de mes aïeux, quoique de leur dépouille il se pare à mes yeux, depuis qu'à mon amour cessant d'être contraire, il semble me céder la gloire de vous plaire, mon cœur, je l'avouerai, lui pardonne en secret, et lui laisse le reste avec moins de regrets. Quoi, je ne serai plus séparée de vos charmes. Quoi, même en ce moment, je puis voir sans alarme ces yeux que n'ont ému ni soupir ni terreur, qui m'ont sacrifié l'empire et l'empereur. Oh, madame! Mais quoi? Quelle nouvelle crainte tient parmi mes transports votre joie en contrainte? D'où vient, qu'en m'écoutant, vos yeux, vos tristes yeux, avec de longs regards, se tourne vers les cieux. Qu'est-ce que vous craignez?
Junie. Je l'ignore moi-même, mais je crains.
Britannicus.
Vous m'aimez?
Junie.
Hélas, si je vous aime!
Britannicus.
Néron ne trouble plus notre félicité.
Junie.
Mais me répondez-vous de sa sincérité?
Britannicus.
Quoi? Vous le soupçonnez d'une haine couverte?
Junie.
Néron m'aimait tantôt. Il jurait votre perte. Il me fuit, il vous cherche. Un si grand changement peut-il être, Seigneur, l'ouvrage d'un moment?
Britannicus.
Cet ouvrage, madame, est un coup d'Agrippine. Elle a cru que ma perte entraînait sa ruine. Grâce aux préventions de son esprit jaloux, nos plus grands ennemis ont combattu pour nous. Je m'en fie au transport qu'elle m'a fait paraître. Je m'en fie à Burrus. J'en crois même son maître. Je crois qu'à mon exemple, impuissant à trahir, il est à cœur ouvert, ou cesse de haïr.
Junie.
Seigneur, ne jugez pas de son cœur par le vôtre. Sur des pas différents vous marchez l'un et l'autre. Je ne connais Néron et la cour que d'un jour, mais, si j'ose le dire, hélas, dans cette cour, combien tout ce qu'on dit est loin de ce qu'on pense. Que la bouche et le cœur sont peu d'intelligence. Avec combien de joie on y trahit sa foi. Quel séjour étranger, et pour vous et pour moi.
Britannicus.
Mais que son amitié soit véritable ou feinte, si vous craignez Néron, lui-même est-il sans crainte? Non, non, il n'ira point par un lâche attentat soulever contre lui le peuple et le Sénat. Que dis-je? Il reconnaît sa dernière injustice. Ses remords ont paru même aux yeux de Narcisse. Ah, si vous avez dit, ma princesse, à quel point?
Junie.
Mais Narcisse, Seigneur, ne vous trahit-il point?
Britannicus.
Et pourquoi voulez-vous que mon cœur s'en défie?
Junie.
Et que sais-je? Il y va, Seigneur, de votre vie. Tout m'est suspect. Je crains que tout ne soit séduit. Je crains Néron, je crains le malheur qui me suit. D'un noir pressentiment, malgré moi prévenu, je vous laisse à regret éloigné de ma vue. Hélas, si cette paix dont vous vous repaissez couvrait contre vos jours quelques pièges dressés. Si Néron, irrité de notre intelligence, avait choisi la nuit pour cacher sa vengeance. S'il préparait ses coups, tandis que je vous vois, et si je vous parlais pour la dernière fois, oh, prince!
Britannicus.
Vous pleurez? Oh, ma chère princesse! Et pour moi, jusque-là, votre cœur s'intéresse? Quoi, madame? En un jour où plein de sa grandeur, Néron croit éblouir vos yeux de sa splendeur, dans des lieux où chacun me fuit et le révère, aux pompes de sa cour préférer ma misère? Quoi? Dans ce même jour et dans ces mêmes lieux, refuser un empire et pleurer à mes yeux. Mais, madame, arrêtez ces précieuses larmes. Mon retour va bientôt dissiper vos alarmes. Je me rendrai suspect par un plus long séjour. Adieu. Je vais, le cœur tout plein de mon amour, au milieu des transports d'une aveugle jeunesse, ne voir, n'entretenir que ma belle princesse. Adieu.
Junie.
Prince.
Britannicus.
On m'attend, madame, il faut partir.
Junie.
Mais du moins, attendez qu'on vous vienne avertir.
Scène 2. Agrippine, Britannicus, Junie. Agrippine.
Prince, que tardez-vous? Partez en diligence. Néron, impatient, se plaint de votre absence. La joie et le plaisir de tous les conviés attend pour éclater que vous vous embrassiez. Ne faites point languir une si juste envie. Allez! Et nous, madame, allons chez Octavie.
Britannicus.
Allez, belle Junie, et d'un esprit content. Hâtez-vous d'embrasser ma sœur qui vous attend. Dès que je le pourrai, je reviens sur vos traces, madame, et de vos soins, j'irai vous rendre grâce.
Scène 3. Agrippine, Junie. Agrippine.
Madame, ou je me trompe, ou durant vos adieux, quelques pleurs répandues ont obscurci vos yeux. Puis-je savoir quel trouble a formé ce nuage? Doutez-vous d'une paix dont je fais mon ouvrage?
Junie.
Après tous les ennuis que ce jour m'a coûtés, ai-je pu rassurer mes esprits agités? Hélas, à peine encore je conçois ce miracle. Quand même à vos bontés, je craindrais quelque obstacle. Le changement, madame, est commun à la cour, et toujours quelque crainte accompagne l'amour.
Agrippine.
Il suffit. J'ai parlé. Tout a changé de face. Mes soins à vos soupçons ne laissent point de place. Je réponds d'une paix jurée entre mes mains. Néron m'en a donné des gages trop certains. Ah, si vous aviez vu par combien de caresses il m'a renouvelé la foi de ses promesses. Par quels embrassements il vient de m'arrêter. Ses bras dans nos adieux ne pouvaient me quitter. Sa facile bonté, sur son front répandu, jusqu'aux moindres secrets est d'abord descendue. Il s'épanchait en fils qui vient en liberté. Dans le sein de sa mère, oubliait sa fierté. Mais bientôt, reprenant un visage sévère, tel que d'un empereur qui consulte sa mère, sa confidence auguste a mis entre mes mains des secrets d'où dépend le destin des humains. Non, il faut ici confesser à sa gloire. Son cœur n'enferme point une malice noire. Et nos seuls ennemis, altérant sa bonté, abusaient contre nous de sa facilité. Mais enfin, à son tour, leur puissance décline. Rome, encore une fois, va connaître Agrippine. Déjà de ma faveur, on adore le bruit. Cependant, en ces lieux, n'attendons pas la nuit. Passons chez Octavie, et donnons-lui le reste d'un jour autant heureux que je l'ai cru funeste. Mais qu'est-ce que j'entends? Quel tumulte confus? Que peut-on faire?
Junie.
Oh, ciel! Sauvez Britannicus!
Scène 4. Agrippine, Junie, Burrhus. Agrippine.
Burrhus, où courez-vous? Arrêtez! Que veut dire?
Burrhus.
Madame, c'en est fait. Britannicus expire.
Junie.
Oh, mon prince!
Agrippine.
Il expire?
Burrhus. Ou plutôt, il est mort, madame.
Junie.
Pardonnez, madame, à ce transport. Je vais le secourir, si je puis, ou le suivre.
Scène 5. Agrippine, Burrhus.
Agrippine.
Quel attentat, Burrhus!
Burrhus.
Je n'y pourrai survivre, madame. Il faut quitter la cour et l'empereur.
Agrippine.
Quoi? Du sang de son frère? Il n'a point eu d'horreur?
Burrhus.
Ce dessein s'est conduit avec plus de mystère. À peine l'empereur a vu venir son frère, il se lève, il l'embrasse, on se tait, et soudain, César prend le premier une coupe à la main. Pour achever ce jour sous de meilleurs auspices, ma main de cette coupe épanche les prémices, dit-il. Dieu, que j'appelle à cet effusillon, venez favoriser notre réunion. » Par les mêmes serments, Britannicus se lie. La coupe de ses mains par Narcisse est remplie. Ses lèvres à peine en ont touché les bords. Le fer ne produit point de si puissants efforts. Madame, la lumière à ses yeux est ravie. Il tombe sur son lit, sans chaleur et sans vie. Jugez combien ce coup frappe tous les esprits. La moitié s'épouvante et sort avec des cris. Mais ceux qui de la cour ont un plus long usage, sur les yeux de César composent leur visage. Cependant, sur son lit, il demeure penché. D'aucun étonnement il ne paraît touché. Ce mal dont vous craignez, dit-il, la violence, a souvent sans péril attaqué son enfance. Narcisse veut en vain infecter quelque ennui, et sa perfide joie éclate malgré lui. Pour moi, dû l'empereur punir ma hardiesse, d'une odieuse cour, j'ai traversé la presse, et j'allais accabler de cet assassinat pleurer Britannicus, César et tout l'État.
Agrippine.
Le voici. Vous verrez si c'est moi qui l'inspire.
Scène 6. Néron, Agrippine, Burrus, Narcisse. Néron voyant Agrippine.
Dieu !
Agrippine. Arrêtez, Néron. J'ai deux mots à vous dire. Britannicus est mort. Je reconnais les coups. Je connais l'assassin. Néron. Et qui, madame ?
Agrippine.
Vous ?
Néron.
Moi ? Voilà les soupçons dont vous êtes capable. Il n'est point de malheur dont je ne sois coupable. Et si l'on veut, madame, écouter vos discours, ma main de Claude même aura tranché les jours. Son fils vous était cher. Sa mort peut vous confondre. Mais des coups du destin, je ne puis pas répondre.
Agrippine.
Non, non, Britannicus est mort empoisonné. Narcisse a fait le coup. Vous l'avez ordonné.
Néron.
Madame, mais qui peut vous tenir ce langage ?
Narcisse.
Eh, Seigneur, ce soupçon vous fait-il tant d'outrage ? Britannicus, madame, eut des desseins secrets qui vous auraient coûté de plus justes regrets. Il aspirait plus loin qu'à l'hymen de Junie. De vos propres bontés, il vous aurait puni. Il vous trompait vous-même, et son cœur offensé prétendait tôt ou tard rappeler le passé. Soit donc que, malgré vous, le sort vous ait servi, soit qu'instruit des complots qui menaçaient sa vie, sur ma fidélité César s'en soit remis. Laissez les pleurs, madame, à vos seuls ennemis, qu'ils mettent ce malheur au rang des plus sinistres. Mais vous,
Agrippine,
poursuis Néron, avec de tels ministres, par des faits glorieux, tu te vas signaler. Poursuis. Tu n'as pas fait ce pas pour reculer. Ta main a commencé par le sang de ton frère. Je prévois que tes coups viendront jusqu'à ta mère. Dans le fond de ton cœur, je sais que tu me hais. Tu voudras t'affranchir du joug de mes bienfaits. Mais je veux que ma mort te soit même inutile. Ne crois pas qu'en mourant, je te laisse tranquille. Rome, ce ciel, ce jour que tu reçus de moi, partout, à tout moment, m'offriront devant toi. Tes remords te suivront comme autant de furies. Tu croiras les calmer par d'autres barbaries. Ta fureur s'irritant soi-même dans son cours, d'un sang toujours nouveau marquera tous tes jours. Mais j'espère qu'enfin le ciel, las de tes crimes, ajoutera ta perte à tant d'autres victimes, qu'après t'être couvert de leur sang et du mien, tu te verras forcé de répandre le tien. Et ton nom paraîtra dans la race future, au plus cruel tyran, une cruelle injure. Voilà ce que mon cœur se présage de toi. Adieu, tu peux sortir.
Néron.
Narcisse, suivez-moi.
Scène 7. Agrippine, Burrus.
Agrippine.
Ah, ciel de mes soupçons! Quelle était l'injustice ! Je condamnais Burrus pour écouter Narcisse.
Burrus,
avez-vous vu quel regard furieux Néron, en me quittant, m'a laissé pour adieu ?
C'en est fait. Le cruel n'a plus rien qui l'arrête. Le coup qu'on m'a prédit va tomber sur ma tête.
Il vous accablera à vous-même, à votre tour.
Burrus, Ah, madame, pour moi, j'ai vécu trop d'un jour. Plutôt ciel que sa main, heureusement cruelle, eût fait sur moi l'essai de sa fureur nouvelle. Qu'il ne m'eût pas donné par ce triste attentat un gage trop certain des malheurs de l'État. Son crime seul n'est pas ce qui me désespère. Sa jalousie a pu l'armer contre son frère. Mais s'il vous faut, madame, expliquer ma douleur, Néron l'a vu mourir sans changer de couleur. Ses yeux indifférents ont déjà la constance d'un tyran dans le crime, endurci dès l'enfance. Qu'il achève, madame, et qu'il fasse périr un ministre importun qui ne le peut souffrir. Hélas, loin de vouloir éviter sa colère, la plus soudaine mort me sera la plus chère.
Scène dernière. Agrippine, Burrhus, Albine. Albine.
Ah, madame, ah, seigneur, courez vers l'empereur. Venez sauver César de sa propre fureur. Il se voit pour jamais séparé de Junie.
Agrippine.
Quoi ? Junie elle-même a terminé sa vie ?
Albine.
Pour accabler César d'un éternel ennui, madame, sans mourir, elle est morte pour lui. Vous savez de ces lieux comme elle s'est ravie ? Elle a faim de passer chez la triste Octavie. Mais bientôt elle a pris des chemins écartés, où mes yeux ont suivi ses pas précipités. Des portes du palais, elle sort éperdue. D'abord, elle a d'Auguste aperçu la statue, et mouillant de ses pleurs le marbre de ses pieds, que de ses bras pressants elle tenait lié. « Prince, par ses genoux, dit-elle, que j'embrasse, protège en ce moment le reste de ta race. Rome, dans ton palais, viens de voir immolé le seul de tes neveux qui te pût ressembler. On veut, après sa mort, que je lui sois parjure. Mais pour lui conserver une foi toujours pure, prince, je me dévoue à ces dieux immortels, dont ta vertu t'a fait partager les autels. Le peuple, cependant, ce spectacle étonne, vole de toutes parts, se presse, l'environne, s'attendrit à ses pleurs, et plaignant son ennui, une commune voix la prend sous son appui. Il l'amène au temple, où depuis tant d'années, au culte des autels, nos vierges destinées gardent fidèlement les dépôts précieux du feu toujours ardent qui brûle pour nos dieux. César les voit partir sans oser les distraire. Narcisse, plus hardi, s'empresse pour lui plaire. Il vole vers Junie, et sans s'épouvanter, d'une profane main commence à l'arrêter. De mille coups mortels, son audace est punie. Son infidèle sang rejaillit sur Junie. César, de tant d'objets en même temps frappés, le laisse entre les mains qui l'ont enveloppé. Il rentre. Chacun fuit son silence farouche. Le seul nom de Junie échappe de sa bouche. Il marche sans dessein, ses yeux mal assurés, n'osent lever au ciel leurs regards égarés. Et l'on craint, si la nuit jointe à la solitude vient de son désespoir aigrir l'inquiétude, si vous l'abandonnez plus longtemps sans secours, que sa douleur bientôt n'attente sur ses joues. Le temps presse, courez. Il ne faut qu'un caprice. Il se perdrait, madame.
Agrippine.
Il se ferait justice. Mais, Burrhus, allons voir jusqu'où vont ces transports. Voyons quels changements produiront ces remords. S'il voudra désormais suivre d'autres maximes.
Burrhus. Plutôt Dieu, que ce fût le dernier de ses crimes.